Notre premier intervenant sera le docteur Christophe Debien, qui est praticien hospitalier au CHU de Lille, qui a un titre très très long, que je vais vous citer, je ne sais pas si c'est pour compenser quelque chose, mais membre des missions d'appui au déploiement national du dispositif vigilance et du numéro national de prévention du suicide, le fameux 3114, dont vous avez probablement entendu parler. À toi Christophe.
Merci Michael. À mon âge, on ne compense plus, hein, on fait son deuil. Merci beaucoup. Enfin, je suis très ému d'être ici parce que j'ai commencé ma carrière en 1923 au centre de crise du CHU de Lille, donc il n'y avait pas l'électricité, pas Internet, tout ça. Je suis content de voir aussi que ces journées continuent, parce que ça aussi c'est important. Hein. Vous avez parlé de ce gap-là de un an, deux ans. De crise sanitaire, on va revenir beaucoup sur ce terme. Je remercie les organisateurs de leur patience, puisqu'ils attendent toujours mon PowerPoint, qui a fini par arriver. Hein. Et puis, je vais essayer de remplir la mission donc, que m'a fixée Michael, qui est une mission assez simple, puisque je suis censé vous redonner les grands principes de ce qu'on appelle la crise. Et il m'a demandé de faire ado. Alors j'ai fait ado. J'ai essayé. On peut lancer le PowerPoint maintenant que vous l'avez. Donc voilà, j'ai pris une référence ado. En principe, il y a la bonne police de caractère. Mais voilà. Donc, je voulais vous parler en fait sur ces grands principes de crise. Je me suis interrogé un petit peu sur ce que je pouvais vous dire à peu près d'intelligent. Alors n'attendez pas grand chose, mais bon, là aussi j'ai fait mon deuil. Mais ça m'a évoqué peut-être cette épreuve, si vous avez vu Squid Game, hein, le fait de passer le pont de verre comme ça, sachant que on a une chance sur deux de tomber. Et la leçon, enfin une des leçons de cette épreuve, c'est qu'il faut y aller à deux. Et on va y revenir là-dessus. Mais la crise, c'est celui qu'on reçoit, mais c'est nous-mêmes aussi qui sommes dans une sorte de déséquilibre permanent. Alors pour reprendre une définition, donc grâce au docteur Jardon, qui aime bien les antiquités, il doit être encore plus vieux que moi puisqu'il a été chercher cette définition dans le Larousse du 19e siècle, pour vous dire. Elle est très intéressante cette définition parce que elle garde la dualité de l'origine du terme crise, puisqu'à la base crise ça veut dire jugement, mais jugement au sens de choix. Donc déjà ça nous parle, hein, puisque dans les moments de crise, vous le savez, vous allez le découvrir, l'importance de choisir une voie, hein, c'est une des choses qui vont présider au travail de crise. Et au départ, on est plutôt dans quelque chose qui est une notion de stabilité. Véritablement, c'est l'acmé de quelque chose, avec l'origine exacte, c'est une origine médicale, avec l'arrivée d'un symptôme qui nous permet de poser un diagnostic. C'est ça, au départ, la crise. Donc c'est vraiment. Et puis progressivement, alors ça c'est pas moi qui le dis, hein, les choses intelligentes je les ai empruntées aux autres, c'est Edgar Morin, mais dès le XXe siècle, la notion de crise, de ce qu'on met derrière la notion de crise, va plutôt vers la deuxième partie de la définition que vous voyez là, c'est-à-dire cette notion d'une situation pleine d'incertitude, de gêne, de danger, mais qui préside à un passage. Ça, on le retrouve, alors non pas dans du coréen, mais dans du chinois, hein, cet idéogramme que vous connaissez, en tous les cas, tous les criseurs le connaissent. En général, ils l'ont tatoué ici. Alors moi, je l'ai tatoué là, mais bon, c'est une question de choix. Hein, et qui vraiment résume ce qu'est la crise, c'est-à-dire à la fois une notion de danger, d'agitation, on va revenir là-dessus, et puis surtout une notion d'opportunité. Et s'il n'y avait pas cette notion d'opportunité, ben notre travail ne servira à rien. Hein, parce que bon, s'il n'y avait que le danger, on mettrait en sécurité, on attendrait que ça passe. Ce qui était une notion au début de ma carrière assez répandue, hein, l'hospitalisation comme refuge, sans qu'il y ait forcément un travail intense qui soit mis en place. Là, dans le travail de crise, comme on sait que cette période, même si elle est difficile, est une période de grandes opportunités, je le mets au pluriel, c'est là-dessus que va se concentrer le travail de crise. Alors, quelques caractéristiques de la crise, c'est que c'est le bordel, en fait, pour résumer, c'est-à-dire qu'on n'y voit pas grand-chose. On n'y voit pas grand-chose parce qu'il y a tellement de manifestations qui sont mises en avant, que ce soit des manifestations comportementales, beaucoup de manifestations comportementales qui sont mises en avant, qui fait que le sujet lui-même ne voit plus, est incapable, ou en tous les cas en grande difficulté pour l'analyse de sa situation. Et nous-mêmes, souvent, on peut se laisser entraîner, notamment avant le centre de crise, c'est-à-dire dès les urgences, par une focalisation sur ces troubles du comportement. Le sujet est perdu, il est dans un joli labyrinthe, il est vraiment déconcerté, il n'est plus maître de son destin, c'est vraiment cette grande particularité de ce moment de crise. En tous les cas, il a le sentiment de ne plus être le maître de son destin, et il découvre peut-être pour la première fois que la vie n'est plus un long fleuve tranquille. Ce qui fait que tout ça, vous le concevez aisément, c'est très angoissant, et que l'angoisse, ça amène à beaucoup d'agitation, beaucoup de manifestations comportementales qui vont biaiser déjà l'abord qu'on va avoir du sujet, qui va rendre beaucoup plus difficile l'abord qu'on peut avoir du sujet, puisque on va se focaliser souvent, en tous les cas c'est le risque, sur ces manifestations comportementales. Enfin, dans les dernières caractéristiques, je balaye très très rapidement, si vous voulez un speech beaucoup plus long, vous demandez à mon collègue le docteur Jardon, il vous fera ça en 3-4 jours. On n'avait pas le temps là cette fois-ci. C'est la communication. La communication est parfois très énigmatique, en tous les cas très brouillée. La façon d'exprimer le mal-être du côté du sujet, j'ai pas parlé de patient, ne correspond pas aux signaux habituels. Quand on a mal, on se plaint, on se recroqueville, on dit « j'ai mal ». Et là, le « j'ai mal » peut être une tentative de ce que j'adore dans les hôpitaux, on appelle les tentatives de fugue. Je ne sais pas ce que c'est qu'une tentative de fugue. C'est quelqu'un qui veut partir parce qu'on n'arrive pas à communiquer ensemble. C'est plus ça. Ça peut être un passage à l'acte auto ou hétéro-agressif, et notamment dans le passage à l'acte hétéro-agressif, on est très déconcerté lorsque ce passage à l'acte se dirige contre nous. Si je rajoute d'autres caractéristiques, puisque tu m'as demandé de parler de l'adolescent, alors moi j'y connais rien en adolescent, enfin j'en ai 3 à la maison, mais vu le succès de mon éducation, j'ai bien fait de ne pas faire pédopsychiatrie. L'adolescent, il est lui-même, alors en crise, vous savez qu'on parle de crise d'adolescence, mais au sens, il est en train de changer, il est en train d'évoluer, il est en mouvement. C'est ça aussi qui est intéressant dans la notion de crise, c'est que c'est un moment où tout est en mouvement, et donc tout est possible, tous les possibles sont là. Ce qui est exactement l'inverse de l'état d'équilibre, quand on est dans quelque chose qui est bien stabilisé, on a beaucoup de mal, beaucoup plus de mal à mobiliser les choses, et là encore, c'est la grande force de ce moment de crise, et je pense, pour la maigre expérience que j'ai des adolescents, enfin en tous les cas des adolescents à partir de 15 ans, ce moment d'adolescence qui est en grand mouvement nous permet d'agir plus vite et plus fort quelquefois sur les crises adolescentes. L'expérience que j'en ai un peu plus longue, c'est sur vigilance. Donc il y a un dispositif de rappel des patients qui ont déjà fait une tentative de suicide, pour ceux qui connaissent pas. Le jour où on a ouvert aux mineurs, comme on dit, alors les enfants, c'est une catégorie très particulière qui ne rentre pas dans ce que je vais dire, mais le jour où on a ouvert notamment aux adolescents, on s'est aperçu que les caractéristiques qu'on avait chez les adultes n'étaient pas du tout les mêmes, les caractéristiques de la crise. Par exemple, lorsqu'on en faisait un rappel, donc les rappels c'est entre J10 et J21, donc à J15, de quelqu'un donc qui a fait une tentative de suicide 15 jours auparavant, chez l'adulte, il y avait toujours une diminution du niveau de crise. On était passé de rouge à orange, de orange à orange clair, voire à vert. Chez l'ado, 15 jours après, on était exactement au même niveau de crise. On était rouge, et donc avec un risque de nouveau passage à l'acte assez important. Ce qui fait que, d'ailleurs, dans certains centres, on fait un rappel systématique maintenant des adolescents à 15 jours, alors qu'avant, il y avait un choix entre primo et non primo. Et donc ça, c'était quelque chose qui nous a beaucoup alertés, en se disant il faut qu'on fasse vraiment, qu'on soit très très attentif pour les ados. La crise ne s'est pas apaisée, n'a pas diminué après, quelle que soit l'intervention. Et puis, on s'est aperçu, donc ça c'était le côté inquiétant, et puis le côté positif de l'ado, c'est que, par contre, lorsqu'on mettait en place une intervention un peu intense, donc je vous rappelle que vigilance, c'est uniquement au téléphone, peut-être, mais c'est en principe en grand partenariat avec toutes vos structures. Hein, vigilance ne peut rien, n'est rien sans toutes vos structures. Ben, si on mettait en place, si on arrivait à mobiliser un petit peu tous les gens autour de cet adolescent, par contre, là, la crise pouvait avoir une résolution assez rapide et la plupart du temps très favorable. Donc ce moment, hein, la caractéristique de l'adolescent, à mon avis, mais il y a d'éminents pédopsychiatres qui pourraient soit me contredire, soit valider, ça serait bien que vous validiez d'ailleurs, c'est un moment propice pour le travail de crise. Autre caractéristique de l'adolescent, enfin de la crise à l'adolescence, mais qui est un piège, enfin qui est à la fois une opportunité et un piège, c'est la communauté d'adolescents autour de l'adolescent. Donc c'est super chouette, mais à chaque fois que vous demandez à un adolescent « Est-ce que tu as un référent sur lequel on va pouvoir se reposer ?»« Ouais, ouais, j'ai mon pote là. » Mon pote là, il vient avec un petit peu d'anxiolytique en forme de cône à l'hôpital. Donc il fait les choses bien, hein. Il a bien compris qu'il fallait de l'anxiolyse, hein. On est d'accord, pas sous cette forme. Et on se retrouve donc avec des partenaires qui sont qui sont pas... en tous les cas, des référents, des repères. Je vous ai dit, dans la crise, on perd ses repères, et notamment une des pertes de repères chez l'adolescent, c'est qu'il ne fait plus ou moins référence à l'adulte. Donc ça fait partie aussi des choses qu'on doit très très vite recadrer, et je pense que la plupart d'entre vous en ont l'expérience, c'est de trouver un adulte de référence. D'un autre côté, cette communauté, elle peut être très protectrice. Et là aussi, alors les expériences... notamment avec les réseaux sociaux, et je vais en parler juste après. Mais oui, il y a les communautés de trolls, ça c'est un mot que vous connaissez, puis Charles-Édouard Notre-Dame, que vous écouterez cet après-midi, a dit il y a aussi des communautés d'elfes. C'est vrai que aussi les communautés peuvent être protectrices, en tous les cas, notamment de certains passages à l'acte. Les réseaux sociaux, je viens d'en parler, c'est un vaste champ, je pense qu'on n'en est qu'au début. En plus de ça, moi, ma génération, je vous rappelle, n'a pas connu l'électricité, alors les réseaux sociaux... Vous imaginez bien, alors il y a Facebook, voilà, ça c'est à peu près le truc, ce que disent mes enfants, c'est que c'est des trucs de vieux, donc a priori je suis dedans. Moi j'étais plus Tinder, mais enfin bon, ma femme a mis un haro là-dessus. Mais cette rapidité, hein, je pense à Twitter par exemple, qui est quelque chose vraiment qui vous entraîne vers un passage à l'acte constant, hein, immédiat, constant, sans beaucoup de réflexion. C'est des choses qui, en tous les cas, moi, me déconcertent assez, et je pense qu'on est au tout début de l'utilisation thérapeutique, j'en sais rien, mais des réseaux sociaux. Je pense qu'il faut y aller, surtout, mais ça, je suis pas le seul à y penser. Je pense que on a un peu loupé depuis quelques années, nous, soignants, le fait d'aller sur les réseaux sociaux pour aller chercher aussi la détresse de ces adolescents, parce que ça c'était une revue de littérature que j'avais faite pour l'organisation du 31-14 pour essayer de voir un petit peu la cinétique des appels, hein, savoir quand est-ce que les gens allaient appeler pour prévoir le nombre d'infirmières et de psychologues suffisants. Bon, au téléphone, hein, on a une cinétique que je vais vous passer, mais en tous les cas la nuit, à partir de 2h du matin, il y a un trou, il n'y a plus personne jusqu'à 6h du matin. Bon, ok, ça c'est ce qu'on connaissait aux urgences. Et puis, le professeur Philippe Courtet de Montpellier m'a envoyé un article très intéressant sur un forum sur Reddit qui est consacré à la prévention du suicide. C'est un forum spontané, hein, qui a été fait par une communauté plutôt bienveillante Et en fait, on s'aperçoit qu'entre 2 et 6 heures du matin, il y a une activité monstrueuse des 15-25. Donc voilà où ils sont. Hein, ils téléphonent pas, ils vont pas aux urgences, mais ils crient au secours sur les réseaux sociaux. Donc là aussi, c'est une nouvelle dimension. Et c'est une dimension qui, à ma connaissance, mais peut-être je me trompe, n'est pas beaucoup rentrée dans nos unités de soins. Ça, c'était pour les principales caractéristiques de la crise. Le contexte de la crise, qui est un contexte qui ne facilite pas notre travail, c'est souvent, voire toujours, le contexte de l'urgence. Hein, on a parlé de l'agitation, mais avec le risque, toujours... qu'on a en tête de passage à l'acte. Quand je parle de passage à l'acte, je ne parle pas forcément de passage à l'acte suicidaire, hein, je parle de passage à l'acte au sens large du terme, hétéro-agressif, mais aussi la rupture avec un groupe, la rupture avec la famille, la rupture avec l'école. Hein, enfin, c'est vraiment. Et d'ailleurs, une des difficultés de la crise, c'est cette ambivalence constante du sujet entre rester dans un... retrouver un état d'équilibre, mais un état d'équilibre qui a amené progressivement à la souffrance actuelle, ou être dans la rupture constante. Et c'est assez intéressant parce que cette ambivalence, on la retrouve de notre côté. On sait, quand on fait de la crise, qu'il est urgent de ne pas se presser. Il est urgent de ne pas éteindre la crise, parce que si on éteint la crise, ben c'est fini, il n'y a plus de discours. Et d'ailleurs, vous savez que, notamment dans la crise suicidaire, il y a des passages à l'acte suicidaire qui sont très embêtants, parce que les gens vont vraiment mieux juste après. Et comme ils vont vraiment mieux, on est un peu emmerdé, déjà pour leur proposer une hospice, pour qu'ils se posent un peu plus, qu'ils réfléchissent, et même quelquefois au centre d'accueil de crise, sur 3 jours, on s'aperçoit que vraiment, ils vont mieux. Ils vont mieux, mais il n'y a rien qui a changé, il n'y a pas d'élaboration autour de ça, il y a un risque, justement, de passer à côté de ce qui a amené à la crise. Et vous connaissez ces sujets qu'on revoit hein, plus tard, et qui, avec les mêmes causes donnant les mêmes effets, hein, ayant abouti de nouveau à un passage à l'acte, et qui, quelquefois, à la deuxième ou troisième hospitalisation, acceptent de dire que non, en fait, ils vont pas beaucoup, beaucoup mieux. Donc nous, on est partagés dans cette ne pas éteindre trop vite la crise, et puis ce risque, hein, chaque fois, alors là je vous ai mis un cercueil, parce que comme ça c'est plus parlant, mais de passage à l'acte au sens large du terme, de rupture au sens large du terme. Toujours dans le contexte du travail de crise, il y a cette ambivalence entre... ces risques de rupture au sens large du terme et ces risques vitaux, et puis les conséquences aussi judiciaires, enfin médico-judiciaires dont je reparlerai après, qu'on a en tête comme ça, avec, à l'inverse, aujourd'hui, nous avons les moyens techniques, technologiques suffisants pour surveiller nos patients 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je pense qu'on a les moyens techniques d'empêcher 100% des tentatives de suicide, mais à quel prix ? Le prix, ça serait pouvoir surveiller leur téléphone, chose qu'on peut faire techniquement, tout le temps, leurs interactions sociales, il y a toute une littérature là-dessus sur l'utilisation de la technologie pour ça, mais est-ce qu'on veut vraiment ça ? Ça, c'est une vraie question éthique qui se pose tout le temps. Moi, c'est ce que je trouve passionnant dans le travail de crise, en particulier, mais dans le travail de la psychiatrie, en général, hein, c'est cette question éthique, jusqu'où on va dans la prévention, jusqu'où on va dans l'action, et qu'il est important de le décider à deux, parce que le travail de crise, hein, c'est un travail d'interaction constante. Alors oui, j'ai ressorti une image du 19e siècle, hein, celle-là. Les plus jeunes, il n'y a aucune chance que vous la connaissiez. Mais c'est ça, le travail de crise, c'est un travail à deux, hein, tout le temps, autour, avec tout ce contexte et ces caractéristiques qui ne facilitent pas notre travail. Pour cette dernière partie, j'ai voulu vous rappeler, pour ceux qui ne connaissent pas, les grands principes d'intervention autour de la crise. Le premier grand principe d'intervention, c'est de trouver ensemble un lieu protecteur. Et là, déjà, c'est déjà compliqué. Vous connaissez l'image de la psychiatrie. Je ne vais pas vous faire la longue diatribe sur l'image que nous avons. D'abord, les gens ne savent pas ce que c'est qu'un psychiatre. savent pas ce que c'est qu'un psychologue, savent pas vraiment à quoi ça sert un éducateur. Enfin bon, il y a vraiment une problématique déjà d'information dont nous sommes responsables, hein, je vous rappelle. Je vous ai pas vu beaucoup sur YouTube pour expliquer votre métier. Il faut écrire des articles, hein, les infirmières par exemple, elles ont toujours du mal à écrire des articles, il y a plein de revues pour expliquer ce que vous faites, et notamment en psychiatrie. Ça, c'est important, cette déstigmatisation, c'est le mot à la mode. N'empêche que ça a une implication, on le voit dès les urgences, parce que pour convaincre quelqu'un d'aller dans un lieu, l'idée c'est d'avoir un lieu décalé par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, et où on garantisse une certaine sécurité, c'est pas toujours évident quand on prononce le mot de psychiatrie. D'ailleurs, pour ça qu'on a inventé le mot de centre d'accueil de crise ou dispositif d'accueil de crise. Ce qui est bien, hein, ça déstigmatise, mais d'un autre côté, ça renforce aussi l'idée que la psychiatrie, c'est autre chose. Non, les centres d'accueil de crise, ça fait partie aussi de nos outils de psychiatrie. On y fait quoi dans un centre de crise ? Alors, on n'y distribue pas du cannabis pour apaiser, mais enfin, on anxiolise d'une autre façon. C'est important. Vous avez quelqu'un qui souffre, hein, quand quelqu'un a mal à la tête, on lui donne un antalgique. Hein, il est très difficile de réfléchir avec une migraine, et il est très difficile de réfléchir quand on est pétri d'angoisse, hein, d'autant plus qu'encore une fois, l'angoisse est le bon terreau d'une certaine agressivité. Et on va proposer un espace un peu décalé, un peu en dehors du temps, pour que le sujet se mette à réfléchir, hein, et qu'on réfléchisse avec lui sur ce qui a pu amener à cet état de crise, et qu'on se décolle un petit peu des symptômes qui ont été amenés aux urgences. Évidemment, on accueille correctement. L'idée aussi, c'est d'essayer de ne pas penser en termes de maladie psychiatrique, hein, tout de suite. Alors ça, c'est le défaut des internes en général, c'est un défaut normal, puisqu'on leur apprend la maladie mentale. Donc ils essayent de coller, de trouver le nombre d'internes qui viennent de nous dire, alors qu'ils ont vu le patient deux fois, il est déprimé. Ouais, en deux consultations, moi je suis pas capable de faire un diagnostic de dépression, il faut un peu plus. D'autant plus que, alors là, si on parle de l'ado, la dépression, c'est un peu la fête du slip, hein, c'est-à-dire qu'au niveau des symptômes, c'est pas tout à fait les symptômes qu'on a appris à la fac, c'est pas tout à fait les symptômes, les manifestations qu'on peut attendre, hein. Il peut y avoir des manifestations très paradoxales, entre guillemets. Donc du coup, le diagnostic notamment de dépression chez je vais parler des adolescents, parce que les enfants, vraiment, je connais pas. Quelquefois, c'est vraiment très très complexe. Et puis surtout, ça sert à quoi ? De mettre un diagnostic psychiatrique, le risque, hein, c'est que dépression, boum, antidépresseur, et on s'arrête de travailler. Donc ça, c'est facile. On pourrait le confier à une intelligence artificielle. On l'a déjà confié à une intelligence artificielle. Les Suisses ont fait des expériences là-dessus, sachant que les intelligences artificielles sont meilleures que nous pour choisir le bon médicament. Non, le travail de crise, c'est pas choisir le bon médicament. Le travail de crise, c'est toute l'élaboration autour, à deux au moins, autour de la problématique qui a amené aux différentes manifestations et à l'hôpital. D'un autre côté, il ne faut pas se détacher de la psychiatrie. Parce que passer à côté d'une dépression de l'adolescent, c'est quelque chose. Passer à côté de premières manifestations qui vont peut-être évoluer vers une maladie psychotique, c'est aussi quelque chose de très important. Et puis, passer à côté du trauma, c'est quelque chose de très important. Hein, beaucoup des situations de crise que l'on trouve, en tous les cas, dans nos établissements, ont un lien plus ou moins étroit avec une situation traumatique, hein, et notamment les agressions sexuelles. Dans le travail de crise, ce qui est une des choses qu'on arrive à faire sur 3-4 jours, c'est, alors les adolescents, je dirais plutôt une semaine, en tous les cas de mon expérience. 3-4 jours, c'est un peu tôt pour un adolescent, parce qu'il lui faut déjà 3 jours pour l'apprivoiser. C'est l'histoire du petit prince. Avec les adolescents, c'est un tout petit peu plus long. Mais c'est le remettre au centre de sa situation, avec, encore une fois, quelque chose d'assez paradoxal. C'est à la fois le responsabiliser sans le rendre responsable, mais c'est plutôt le rendre acteur du futur changement qu'il va pouvoir mettre en place. Alors le professeur Veva a l'habitude de d'édicter un certain nombre de principes de la crise. Bon, ça fait un peu cucu de temps en temps, mais c'est pas grave. Il n'est pas là, donc je peux critiquer. Le respect, hein, c'est la première chose. Hein, il rappelle toujours ça. Faire preuve de respect. Ça paraît évident et un peu cucu, mais quand vous avez un adolescent qui vous crache dessus, c'est pas si évident que ça de lui témoigner du respect. On a quelquefois des réactions émotionnelles un petit peu, nous aussi, hein, nous sommes des êtres humains. Et donc, il faut se rappeler ça à chaque fois, et que quand on n'y arrive pas, l'intérêt d'être dans un centre de crise et l'intérêt d'être dans une institution, c'est qu'on est une équipe. Et donc, quand on n'y arrive plus, il faut savoir passer la main à un autre membre de l'équipe. L'intervention, elle doit viser effectivement une bonne relation avec la personne en crise, et c'est aussi l'intérêt et la richesse des équipes. Il y a une notion un peu polémique, mais j'aime bien la polémique, hein, c'est... la place des aides-soignants, notamment dans les centres de crise, c'est une. Je peux vous assurer que moi, qui maintenant me balade beaucoup, beaucoup en France, le fait de mettre des aides-soignants formés à la crise dans les centres de crise et de leur donner une importance autre que les tâches ménagères, je peux vous assurer que c'est une exception de la région. C'est très, très compliqué. Or, notamment chez les adolescents. La plupart de l'accroche, en tous les cas des expériences, Vincent, tu me contredis si je dis des bêtises, mais qu'on a pu vivre au centre d'accueil de crise, en tous les cas à Lille, c'est que c'est avec les aides-soignants que les ados ils accrochaient, et que c'était par là qu'on pouvait établir une relation suffisante de confiance mutuelle pour travailler. L'intervention, elle doit être immédiate, hein, effectivement, et puis active. Être directif. Alors ça, c'était une révolution quand on a commencé notre carrière avec Vincent. Hein, on était de l'âge de la psychiatrie attentiste. On attendait la demande, on attendait le changement. C'était cool, psychiatre, à cette époque-là, puisqu'on n'avait qu'à attendre. Il fallait être patient. La notion de crise, on ne peut pas se permettre de ça. Il faut aller aider le patient dans ce moment, dans cette bascule, hein, ce mouvement, et l'aider à ce que le résultat soit plutôt positif. Et puis, ces deux grandes questions de la crise que tous les criseurs connaissent, hein, c'est pourquoi ici, pourquoi maintenant. Quand vous posez ces deux questions, quand on est jeune interne, posez-vous que ça comme question, ou jeune soignant. Posez juste ces deux questions à celui qui vient de rentrer. Vous allez voir que derrière ça, eh ben, il y a toute la crise, en tous les cas, tout le contexte de crise qui se déploie. Quelque chose qui n'est pas évident, en tous les cas, moi qui me renvoie à mes premières années d'internat, ça m'a toujours stressé, voire angoissé, les gens qui pleuraient. Hein, l'expression des émotions chez les patients, c'était vraiment un truc qui, en tous les cas, moi, en tant qu'interne, c'était insupportable. Les gens qui pleuraient, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je les prends dans mes bras? Ben non, la distance. Je fais quoi avec? Souvent, je partais. Je partais et puis je demandais à une infirmière, dis, toi, tu sais faire. C'est vrai que c'est pas évident dans les centres de crise de laisser une place à l'expression de l'émotion de l'autre, d'être capable de l'accueillir, d'être capable de la reconnaître, d'être capable de la valider la colère chez quelqu'un. Oui, c'est pas évident, mais ça fait partie du travail de crise, hein, ce qui veut dire que pour faire du travail de crise, ça s'improvise pas. Il faut aussi des formations. L'intervention doit responsabiliser la personne en crise, ça je vous l'ai déjà dit. Transmettre l'espoir. Alors ça, c'est quelque chose d'important. C'est pas un espoir candide. Hein, c'est pas tout va s'arranger. Ton père t'a violé, demain ça ira mieux. Non, ça c'est pas possible. Maintenant, c'est comment ta vie là qui s'est arrêtée à un moment, on s'est donné hein, cette respiration. C'est aussi une respiration, une hospitalisation dans un centre de crise. Pendant cette respiration, comment tu peux te construire, même si ton père t'a violé? C'est ça que ça veut dire. Parce que derrière, en creux, c'est tu peux te construire. J'aime pas le terme reconstruire. Tu peux te construire autrement. C'est plutôt vers ça qu'on va. Il faut penser à la famille, à l'entourage, je vais dire au sens large du terme, à la fois. Un des piliers de l'intervention de crise, c'est d'aider à identifier et à mobiliser l'entourage autour du sujet. Mais aussi, ça ne peut marcher que si on les accompagne. Ça m'a toujours quasiment révolté quand, aux urgences, j'ai fait beaucoup d'urgences, hein, ou même au centre de crise, j'entendais dire à une maman, on disait ça à une maman, on avait son fils, et puis il fallait donner quelques traitements, on va dire des anxiolytiques à la sortie pendant quelques jours ou quelques semaines. Et on disait à la maman, bon, on compte sur vous pour lui donner ces traitements. C'est horrible, ça. Enfin, vraiment, quand vous êtes parent, déjà, vous êtes mort de trouille, vous comprenez pas ce qui se passe. Et en plus de ça, vous avez la responsabilité de distribuer les médicaments. Là, je pense qu'on a un gros boulot pour accompagner les familles. Comment on peut le faire? Comment vous le recevez quand je vous dis ça, madame? Est-ce que vous vous sentez capable d'avoir les médicaments sous votre responsabilité? Est-ce qu'on peut pas travailler avec le pharmacien, dont c'est le métier de distribuer les médicaments 3 fois par jour, hein? Vous savez qu'on peut demander à quelqu'un d'aller à la pharmacie 3 fois par jour. C'est peut-être lourd, mais est-ce que c'est avec le médecin traitant? Est-ce que, vous voyez, on peut pas se contenter de cette phrase. Il faut s'asseoir. C'est possible, quelquefois. Les parents vont accepter, vont même être contents d'être actifs là-dedans. Quelquefois, ça va les terrifier. Et si vous les terrifiez, ben, ils vont mal le faire. Et du coup, on va réengendrer ou risquer de réengendrer une crise. Je pense qu'on a un gros effort à faire vis-à-vis de l'entourage au sens général et des familles en particulier. Et surtout, et c'est pour ça qu'on a créé des équipes dans les centres de crise, hein, l'intervention doit jamais se faire en solitaire. Je pense que vous avez compris pourquoi, parce qu'il va falloir recevoir le discours, il va falloir recevoir les émotions, il va falloir être capable de les métaboliser, et que c'est moins difficile quand on est une équipe. Hein, donc dans la plupart des centres d'accueil et de crise, les interventions se font toujours en binôme, quel que soit le binôme. Bon, mettre un cadre, évidemment. Alors, chez l'ado, c'est important de mettre un cadre. Alors, c'est marrant parce qu'en psychiatrie, au début de ma carrière, ouais, je commence vraiment à parler comme un vieux. Hein. Mais il y avait une grande différence. Moi, je viens de la médecine somatique au départ. Et en médecine somatique, par exemple, quand j'étais hospitalisé pour mon hernie discale, je suis un gros fumeur. J'avais envie de cloper toutes les 15 secondes. Et ben le chirurgien, il avait dit non, et t'as pas intérêt parce que si tu bouges, je t'attache. Ben j'ai jamais réclamé ma clope. En psychiatrie, la clope, hein, c'est un espèce de roman photo très différent selon. Enfin, on en parle en équipe, on fait des synthèses, on se croit en pédopsychiatrie. Il y en a quelques-uns, ouais. Et puis on refait des synthèses, et on refait des synthèses pour la clope pendant des années. On est incapable. Ou en tous les cas, on a beaucoup de difficultés à mettre en place un cadre. Et dans le cadre thérapeutique, hein, y a les règles, et notamment les règles de la collectivité, mais aussi les règles du soin. Qu'est-ce que moi je vais t'apporter et comment on va pouvoir mettre en place nos interactions? Bon, hiérarchiser les priorités avec le patient, bon ça je vais passer vite. Dernière notion, c'est la notion qui est chère à Vincent et moi, c'est la notion de contrainte molle, hein, donc qui est une notion qui est complexe parce qu'elle fait appel aussi à l'éthique du soin, c'est jusqu'où on va encore une fois pour garder un patient à l'hôpital. Donc certains appellent ça du chantage, hein, c'est-à-dire si tu veux sortir, tu vas te retrouver en hospitalisation sous contrainte, quelquefois. On en a besoin, et c'est pas du chantage, c'est du cadre. C'est-à-dire que voilà, les règles sont là, si tu veux sortir, ça va être, tu dois avoir un entretien médical. Alors c'est assez rigolo parce que quand j'étais en Martinique, j'étais le seul médecin pour 4 unités. Donc vous imaginez que j'étais médecin intermittent du spectacle. Et donc des demandes, il y avait des demandes de sortie sur la garde. Et puis c'était emmerdant parce que les médecins de garde venaient me voir en disant tu fais chier, machin, les infirmières étaient un petit peu embêtées parce qu'en plus de ça c'était des demandes à 21h30, vous voyez, équipe de nuit, équipe de jour, enfin je vous laisse. Et puis un jour j'ai dit, bah, écoutez, dans le règlement intérieur qu'on lit aux patients, on va mettre qu'il n'y a pas de sortie au-delà de 18h30. Et bien aussi incroyable que ça paraisse, on a vu fondre, les demandes de sortie contre avis médical contre avis médical. En tous les cas, sans avis médical, elles ont disparu, et contre avis médical, elles ont fondu. Donc voilà, quelquefois, c'est nous qui avons du mal à mettre un cadre. les autres interventions, enfin les autres personnes importantes hein, dans la prise en charge dans un centre de crise. Donc, pour faire plaisir à Perrine, j'ai mis l'assistante sociale. Au-delà de ça, vous savez à quel point c'est indispensable d'avoir une assistante sociale qui nous éclaire, nous, soignants, sur un certain nombre de cadres, justement, à mettre en place. La famille, on en a parlé. Et puis, peut-être encore plus particulièrement chez l'adolescent, hein, les côtés médico-légaux, en tous les cas juridiques, qui sont majeurs, hein, être capable de faire un signalement au sens large du terme. Quand je dis signalement, j'inclus tout, j'inclus l'information préoccupante. Moi, je suis atterré par le peu de signalements qui sont faits, pas chez nous, mais dans d'autres régions, notamment sur un dispositif comme vigilance, sur l'enfance en danger. Alors c'est compliqué hein, de faire une information préoccupante ou un signalement. C'est quelque chose qui est un élément de cadre assez majeur pour rassurer tout le monde, hein, y compris le patient. Je vous remercie. Alors, j'ai dépassé ce que tu m'avais dit que je pouvais dépasser. J'ai trop dépassé.
Parfait. Bon. Merci, Christophe. Malgré le léger dépassement, on a encore largement la place pour quelques questions. Donc, est-ce qu'il y a dans l'assistance des personnes qui voudraient questionner ou se venger sur le docteur Debien?
Le coup des synthèses, non, ça vous inspire pas?
Alors, j'avais prévenu que j'allais le faire et ma proximité capillaire avec mon glorieux prédécesseur m'amène à faire ça. Par expérience, c'est la première question qui est la plus difficile, disait le professeur Goodman. Donc c'est moi qui vais la poser. Ce qui m'a interpellé, c'est quand tu as parlé des réseaux sociaux, en particulier Twitter, que je suis régulièrement comme une sorte d'expérience sociale permanente. Et j'ai vu à quel point ce réseau social débordait de malveillance très rapide, et à quel point même moi, qui suis censé être un peu mature, légèrement, c'est difficile de résister, de pas prendre pour soi toute cette malveillance et de réussir à faire la part des choses. Et j'imagine que dans le cerveau d'un adolescent, ça doit être quasiment impossible. Alors, limiter leur accès, c'est possible, mais c'est difficile. Est-ce que, au-delà des dispositifs qui sont en train de se mettre en place, soit vigilance et le 3114, qui sont deux dispositifs téléphoniques, donc le 19e siècle, comme tu en as parlé, est-ce que des éléments d'intervention justement sur ces réseaux sociaux, des veilles, sont en place ou envisageables, ou est-ce que c'est quelque chose qui échappe totalement à notre contrôle pour l'instant?
Alors, il y a quelques initiatives éparses, j'allais dire, et notamment la première initiative, c'est les promeneurs du web, que peut-être certains d'entre vous connaissent. C'est une assistante sociale qui a créé ça il y a quelques années. Maintenant, c'est un dispositif national. Alors, c'est pas de la santé. C'est une vieille assistante sociale qui s'est aperçue que les gamins, ils venaient plus dans son bureau. Et donc, elle s'est demandé si c'est parce qu'elle était vieille ou parce qu'ils avaient du mal à accéder jusqu'à son bureau. Et elle a ouvert une porte sur Facebook. Comme c'était une vieille, elle a juste ouvert une porte sur Facebook en disant, voilà, vous pouvez prendre rendez-vous. C'est juste pour prendre rendez-vous. Et en fait, elle s'est aperçue que beaucoup d'adolescents lui mettaient des MP, enfin des messages personnels, avec des questions qu'elle aurait eues d'habitude. Et puis, ça a été l'idée de créer un peu les promeneurs du web, de pouvoir répondre à des problématiques socio-éducatives par l'intermédiaire de Facebook. Ça a été une première initiative. Après, il y a plein d'autres initiatives à droite à gauche. Il y a Helios qui arrive. Donc ça, c'est Charles-Édouard Notre-Dame. Donc avec, comme arrière-pensée, l'idée, c'est que les adolescents, donc d'aller les chercher, encore une fois, d'ouvrir une porte sur les réseaux sociaux et de leur répondre et de dialoguer dans un premier temps avec le réseau social qu'ils ont utilisé. Donc s'ils ont répondu sur Facebook, on répond sur Facebook. S'ils ont répondu sur Twitter, on répond sur Twitter, etc., etc. On va voir ce qui va se passer, puisque c'est une expérimentation là, qui se met en place, je pense, aux alentours du 15 décembre. Il y a, à mon sens, une vraie prise de conscience à avoir. Je dirais presque qu'il faudrait enseigner les réseaux sociaux à la fac. Il faudrait renseigner les réseaux sociaux pour les éduques, pour les infirmiers, parce que on ne sait pas vraiment encore. Il y a plein de travaux, mais il y a personne qui a, à ma connaissance en tous les cas, structuré quelque chose, une réponse. Certains, il y a de plus en plus d'hôpitaux quand même. Vous connaissez la réactivité des hôpitaux, hein, donc c'est-à-dire ils font des trucs 20 ans après, mais ils le font, qui ont mis en place des sites internet. Voilà. C'est récent, en fait, quand on regarde le développement des sites Internet. Et il commence à y avoir des questions qui sont posées aux hôpitaux. Je ne parle pas que psychiatrique, par les patients. Donc on voit bien que c'est aussi un nouveau moyen, un nouveau média de communication. On est très en retard aujourd'hui là-dessus. Il y a aussi le fait que je pense qu'on a peur. Tu le disais, Twitter, c'est terrible. Twitter, c'est de la réactivité. Comme ça, on n'est que sur de l'émotionnel. Alors que notre métier en général, c'est justement de se détacher un peu de cet émotionnel pour aller mettre autre chose derrière, du sens. Twitter, il y a peu de sens. Donc il y a peut-être une éducation aux soignants à avoir, en tous les cas ceux qui auront envie d'avoir cette polarité-là, pour aller accompagner ce public-là sur des réseaux sociaux qui leur parlent, quoi. Il y a TikTok, hein. 31-14, il y a 10 jours, on a eu une tentative de suicide en direct sur TikTok. La répondante, heureusement, c'était une répondante d'expérience, je vous assure, il fallait qu'on lui tienne la main, la répondante. C'est une infirmière psy qui a l'habitude, qui connaît, qui a fait, vigilance, hein, et qui s'est retrouvé avec une ado, puisqu'on a réussi à se connecter à son compte TikTok, qui était sur TikTok, en train de mourir, heureusement c'était des molécules qui ne la faisaient pas mourir, mais enfin on ne savait pas, qui était en train de s'endormir, et elle essayait d'avoir un certain nombre de données. Ça a été très compliqué pour cette répondante, il a fallu la débriefer très très longuement, il y a ça aussi, hein. C'est que là, d'un seul coup, la tentative de suicide, c'était en direct. C'est rare qu'on ait des tentatives de suicide en direct. On en a dans les services, souvent avec une certaine mise en scène, heureusement. On a quand même quelques morts aussi dans les services. Mais là, elle était en direct pendant 35 minutes jusqu'à l'arrivée des pompiers. Donc là aussi, on a vu qu'il fallait, même moi qui étais à côté, franchement, c'était compliqué. Hein. Je ne savais même pas comment aider ma répondante à part lui tenir la main, quoi. Donc il y a, je pense, une grande réticence de notre part parce que c'est effrayant, hein, d'un côté, honnêtement. Tu le disais, hein, Twitter. Moi, j'ai coupé Twitter parce que ça m'énerve. Donc j'ai envie de répondre. Voilà. Y a-t-il des universitaires dans la salle, quoi ? Enfin, il y a une vraie question là-dessus. Je sais que Guillaume Véva réfléchit déjà à quelque chose de l'ordre de autour de la visio, parce qu'il y a aussi ça qui est arrivé, hein, qui est assez nouveau. Hein. Il y a pas mal de soignants qui étaient très réticents à la visio. En fait, ce sont que les soignants qui sont réticents à la visio, pas les patients, et qui ont, de fait, depuis 2 ans, été confrontés à ça et s'aperçoivent que, oui, il faut réinventer une clinique, mais que on peut arriver à des choses aussi riches qu'en face-face, quoi. C'est que le début.
Docteur Lalo.
Oui, rapidement. Merci Christophe pour cette intervention. Alors moi, j'ai juste une question. Hein. Je trouve que les réseaux sociaux, est-ce que c'est pas une réponse à on ne sait pas quoi faire ? D'où ma question. Est-ce que tu pourrais nous rappeler les objectifs ? Comment ça se passe pour le 31-14 ?
Le 31-14, donc c'est un vieux truc puisque c'est le téléphone. Mais ça marche avec les téléphones portables, hein, vous n'êtes pas obligé d'avoir un téléphone filaire. C'est ouvert à la population générale, donc à chacun d'entre nous. Et j'allais dire, même l'objectif premier, c'était pas de viser les gens en crise, c'était de viser tous ceux qui ont besoin d'une information autour du suicide. Donc ça va du professionnel de santé qui dit, tiens, est-ce que dans ma région, il y a un colloque sur la crise suicidaire ? Comment se passent les formations ? Donc ça peut être ça. jusqu'à l'autre bout, hein, les patients en crise. Ce qu'on constate aujourd'hui, donc ça fait un mois, ouais, c'était le 1er octobre, donc ça fait un mois, quasiment un mois et demi, c'est que le 31-14 a répondu à une attente, celle des tiers. C'est-à-dire qu'on a une proportion de tiers, alors quand je dis tiers, c'est celui qui appelle pour quelqu'un d'autre, assez importante, beaucoup plus importante que en tout cas ce qu'on avait pu lire à droite, à gauche. Et je pense que ces tiers n'étaient pas bien accueillis par le SAMU, ou n'osaient pas appeler le SAMU, hein, et ne trouvaient pas auprès des associations d'écoutants le côté interventionniste dont ils ont besoin. Et donc là, véritablement, le 31-14, aujourd'hui, hein, là où je vous parle, c'est vraiment les tiers, avec des choses qui, sur le plan pédopsie, sur le plan éthique et déontologique, sont complexes. On a beaucoup d'appels, beaucoup de gamins qui ont entre 15 et 18, hein, qui appellent pour un autre gamin avec lequel ils sont amis sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, et qui dit « je vais me suicider dans 4 heures ». Et donc, vous voyez tous les problèmes que ça pose, c'est-à-dire comment, qu'est-ce qu'on fait avec ce gamin qui appelle déjà avec cette préoccupation, comment on réinjecte un adulte, parce que c'est ce qu'on essaye de faire le plus vite possible, comment on retrouve l'autre gamin, comment on le localise. Enfin, il y a un gros truc qui se passe là, avec, notamment, on va mettre en place un groupe médico-éthique, et qui devait autour des populations mineures, mais qui va se focaliser déjà dans un premier temps sur cette question-là. Donc voilà, le 31-14, c'est pour tout le monde. On a pas mal de professionnels qui appellent. On a de la conseillère conjugale, de l'assistante sociale, de l'infirmière scolaire. Pas de médecin, pour l'instant. Ce qui ne m'étonne pas, il faut un an et demi à peu près pour identifier, faire confiance. Hein. On vient d'ouvrir, hein, donc voilà. Et dans un deuxième temps, il y aura un chat. Dans 6 mois, il y aura un chat, c'est-à-dire qu'on pourra accéder au 31-14, non pas par le téléphone, mais véritablement par un chat, avec comme objectif quand même d'arriver au téléphone, et peut-être à la visio, hein, qui apporte encore une autre dimension. Et vous voyez qu'au bout, ce qu'on essaye, c'est de reproduire le modèle de l'échange face-face, mais peut-être que c'est pas le bon objectif. Les gamins, ça leur va. Hein. Le téléphone, c'est impressionnant. Hein. Avec les ados, on a appris beaucoup. Hein. Ils vous font des révélations d'agressions sexuelles en plein milieu de la cour de récréation, quand même. Hein. C'est les appels de 11h, c'est des appels très, très surprenants. Là aussi, on voit que l'importance de mettre un cadre. Hein. C'est-à-dire qu'au début, on ne savait pas. Et maintenant, on leur dit, écoute, non, attends. Isole-toi, mets-toi dans un endroit. Alors. Et c'est une nouvelle façon d'appréhender la crise. C'est les mêmes principes. Mais il faut les projeter sur le lieu où est le sujet en crise. Est-ce que tu n'as pas une petite pièce où tu peux te mettre? Est-ce qu'il y a un adulte à côté de toi, une infirmière scolaire, un prof principal? Enfin, vous voyez, mais on garde les mêmes principes.
Hein. D'autres questions? Merci Christophe.
Merci.
Je vous propose de vous remettre de cette intervention.